Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, pour ce qui ne sera finalement pas le dernier numéro de la saison. Nous allons jouer en effet les prolongations durant les deux premières semaines de juillet en vous proposant des numéros consacrés à la présentation des saisons 24-25 de l'Opéra National du Capitole puis de l'Orchestre National du Capitole. En attendant cela, nous allons revenir dans cette émission sur les premières représentations d'Eugène Onéguine à l'Opéra National du Capitole justement. Je rappelle qu'elles se poursuivent jusqu'au 2 juillet, il reste des places. Pour nous en parler, j'ai donc invité de nouveau Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est accompagné de Serge Chauzy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puis comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un invité d'honneur, Christopher Gibert, fondateur et directeur artistique du chœur Dulci Jubilo et fondateur et directeur artistique du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, dont l'édition 2024 a lieu du 5 au 14 juillet, un événement dont la programmation va vous être dévoilée en seconde partie de ce numéro. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Retour donc sur les premières représentations d'Eugène Onéguine, l'opéra de Tchaïkovski, qui clôture la saison du Capitole jusqu'au 2 juillet, dans la mise en scène de Florencio et avec Stéphane Degout dans le rôle-titre. Il reste trois représentations pour découvrir cette nouvelle production les 28 et 30 juin et le 2 juillet pour la dernière. Robert Pénavert, vous avez assisté pour votre part à la première le 20 juin et apparemment vous avez beaucoup aimé ce que vous avez vu et entendu ce soir-là.
Effectivement, alors bon, évidemment, c'est le dernier spectacle de l'année, mais voilà, il est absolument magnifique. Alors magnifique, pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. L'œuvre, bien sûr, de toute façon, nous en avons parlé la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus.
On a utilisé le terme chef-d'œuvre et bon, il est complètement adéquat.
Voilà, mais ce que nous propose Christophe Gristy, en fait, c'est la réunion de talents absolument extraordinaire. Et je voudrais citer en premier le metteur en scène. C'est un jeune metteur en scène français, il s'appelle Florencio, plutôt spécialisé, à vrai dire, dans le théâtre dramatique. Il a déjà côtoyé l'opéra, il a monté une Tosca, mais en fait, ce n'est pas quand même son quotidien. Et donc, il s'accroche quand même à l'une des œuvres majeures, non seulement de la littérature russe, puisque, bon, je le rappelle, c'est quand même l'un des grands chefs-d'œuvre du théâtre russe, qui a été signé par Pouchkine, et également, évidemment, de l'opéra russe, puisque c'est une œuvre signée de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Donc, il faut quand même un certain courage.
Ben, il faut être à l'auteur.
Parce que, quand même, monter une œuvre russe, c'est toujours un vrai challenge. Il y a quand même, dans le théâtre russe, que ce soit Tolstoï, que ce soit Tchekhov, que ce soit Pouchkine, évidemment, ou d'autres, même des auteurs russes actuels, il y a un sentiment, il y a une âme. Vous savez, quand on parle d'âme russe, ça veut dire quelque chose.
Oui, c'est en définitive quelque chose. C'est pas un cliché.
Ça veut dire quelque chose assez difficile, finalement, à cerner.
Pour qui n'est pas slave ?
Pour qui n'est pas slave, effectivement. Donc, Florencio a lu, il ne parle pas russe, mais il a lu plusieurs traductions du roman en vers
de
Pouchkine avant de pouvoir se faire une idée. Et puis, finalement, je pense qu'il a réussi à nous dire quelque chose d'extraordinaire, si j'en crois, la réaction du public. L'équipe de production a été ovationnée. Il faut dire que c'est relativement rare dans le théâtre d'opéra d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que beaucoup de metteurs en scène, et parmi les plus connus, s'approprient l'œuvre pour servir, à vrai dire, parfois des fantasmes, leur propre gloire, etc., beaucoup plus que pour servir l'essence même de l'œuvre. Et ça, Florencio s'en est tenu extrêmement à l'écart. Donc, en fait, nous nous trouvons dans une temporalité qui est celle de l'œuvre de Pouchkine, avec des décors très beaux, des costumes dans des couleurs pastels qui sont absolument pas criards, et la mise en scène, la direction d'acteur, puisqu'en définitive, la mise en scène C'est ça, surtout dans le théâtre russe. Le travail de Florencio, en fait, c'est un théâtre de l'intime. En définitive, il nous fait pénétrer dans le subconscient, dans la psyché de tous ces personnages et tous ces personnages qui, quelque part, évidemment, traînent avec eux dans leur mental des regrets, des espoirs, des désespoirs, des deuils même, puisqu'il ne faut pas oublier qu'évidemment, Onéguine a tué son meilleur ami. Et ça, c'est quelque chose dont il n'arrivera jamais
à faire l'économie
dans son mental. Voilà. Et donc, il travaille énormément les personnages. Alors, la scène est divisée en deux. Au-dessus, quelque chose d'extrêmement important dans toute la littérature russe, c'est la nature et la forêt. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, en bas, au rez-de-chaussée, on pourrait dire, du décor, c'est l'appartement des Larina. C'est également, évidemment, au dernier acte, le palais du prince Grémine. Et au-dessus, c'est la forêt. Et dans cette forêt, qu'on peut penser proche du palais des Larina, dans cette forêt, les personnages vont se croiser, mais également croiser ce qui les hante. Mais sans lourdeur aucune, justement, en faisant des choses extrêmement signifiantes dans les costumes qui ont, je le répète, la temporalité de l'œuvre. Et ça, c'est fondamental. Donc, de très beaux costumes, de très beaux éclairages. Bon, voilà, c'est un spectacle qui fait du bien. Parce que voilà, on est dans l'œuvre et on n'en sort pas. On n'a pas besoin de faire de thèse de troisième cycle pour comprendre ce qu'a voulu faire le metteur en scène. Par contre, on comprend très vite ce qu'ont voulu faire Tchaïkovski et Pouchkine. Et ça a été, comme par hasard, largement salué par le public. Mais bon, il faut reconnaître que Christophe Gristy a le talent d'inviter des metteurs en scène qui ne trahissent pas les œuvres.
Qui savent se mettre au service de l'œuvre. Effectivement, ça devient de plus en plus rare.
Voilà.
Je ne citerai pas certaines maisons
d'opéra. Vous vous souvenez du Vautsec de Michel Faux?
Oui, magnifique. Oui,
absolument fabuleux. Alors,
Avec Stéphane Degout, déjà.
Il y avait déjà Stéphane Degout.
Oui. Parlez-nous des chanteurs.
Alors, les chanteurs, bon, vous avez cité effectivement, et c'est normal, le rôle titre, Stéphane Degout. Il devait prendre le rôle chez nous, ça n'a pas été le cas à cause du Covid. Donc, il a étreiné le rôle à Bruxelles, c'était en 2023, dans une mise en scène, Laurent Pelly. Donc, il prend le rôle à Toulouse, dans la mise en scène, évidemment,
oui, quand même,
de Florencio, et c'est tout autre chose. Il en fait évidemment un tout autre personnage. Parce que, très clairement, Stéphane Degout, nous le savons tous autour de cette table, est un artiste. Ce n'est pas un simple chanteur.
Qui a vu son Vautsec, on est convaincu.
Oui. Voilà. Et donc, ce qui fait, mais vraiment, l'évolution psychologique, parce qu'en définitive, le plus beau personnage, celui qui évolue le plus dans cette œuvre, c'est Onéguine. Alors bon, Lenski, il n'a pas trop le temps d'évoluer, mais Tatiana, c'est un peu différent. C'est un personnage un peu plus froid. Mais lui a vraiment matière à construire psychologiquement un personnage. Et croyez-moi, avec l'aide de Florencio, il ne s'en est pas privé. Ensuite, il y a le chanteur, évidemment. Et là, ce qu'il fait, tout simplement, ben, c'est stupéfiant de musicalité, de beauté vocale, le grain de la voix, l'ambitus qui est très large, qui va quand même jusqu'au sol. Parce que quand même, Tchaïkovski, à la fin du spectacle, là, mis dans la partition un sol aigu, mais qui ne pose pas du tout un problème à Stéphane Degout. Voilà, une grande, grande réussite. Alors, face à lui, il a une soprano ukrainienne,
Valentina Fedeneva,
qui, elle, n'était pas sa première Tatiana, parce qu'elle a chanté ça dans les troupes russes qu'elle a fréquentées. Et on sent bien, dès le début, qu'elle est très à l'aise dans ce répertoire-là. Mais nonobstant, le travail que lui fait faire Florencio, en particulier dans la fameuse scène de la lettre, évidemment, c'est un travail pointilliste, vraiment. On est un peu dans Les Trois Sœurs, on est dans La Cerisée, on est dans ces ouvrages-là. Non, mais elle est vraiment extraordinaire. Alors après, il faut, pour nous autres latins, s'habituer à ces timbres slaves qui sont toujours un peu dans l'aigu, en particulier lorsqu'il est appuyé, ont tendance à se métalliser un peu. Mais ceci étant, c'est une très belle composition. Et ensuite, Lenski, bon, c'est un ténor que l'on connaît bien à Toulouse. Il a chanté déjà à deux reprises. C'est Brock Magnus Todenes, qui lui nous fait aussi musicalement. Il fait des diminuendo absolument vertigineux et il compose également un très joli personnage. Dans le rôle de Grémine, on a retrouvé quelqu'un que l'on connaissait aussi, mais pour des rôles un peu plus effacés. C'est Andras Bauer Canabas, qui est une basse allemande, qui est en troupe à Francfort. Et vraiment, on se demande qu'est-ce qu'il fait en troupe. Alors évidemment, maintenant, il ne fait plus que les premiers premier rôle, bien sûr, hein, mais maintenant, tous les théâtres du monde le réclament, parce que c'est une basse magnifique. Son grémine est littéralement somptueux de phrases, de couleurs, d'émotions. C'est vraiment une très grande interprétation. Et ensuite, on a retrouvé Juliette Mars dans Madame Larina, Sophie Bonjiklis dans le rôle Philippe Jefna, qui sont évidemment quasiment du luxe pour ces rôles relativement secondaires. Et puis, on avait dans le rôle qui est quand même très particulier de Monsieur Triquet, un rôle, rappelons-le, qui est chanté en français, puisque c'était la grande tradition de la noblesse russe et le grand orgueil de pouvoir s'exprimer en français. Et lui, il chante donc les couplets à l'attention de Tatiana, il chante en français. Et donc, c'est aussi un ténor de caractère que l'on connaît bien, qui s'appelle Karl Gazarossian. Je rappelle que c'est lui qui anime le midi du Capitole bientôt. Il y a Yuri Kissin, évidemment, dans les deux rôles de basse. Et à la baguette, donc, on a quelqu'un qui est arrivé un peu au pied levé,
oui, oui.
Quatre jours avant la première, voilà, suite au départ pour convenance personnelle du chef qui était prévu. Et c'est un Allemand qui s'appelle Patrick Lange, qui lui aussi connaît la partition et qui est un chef avant tout lyrique et qui a dirigé ça à merveille. Et il ne faut pas oublier la participation merveilleuse des chœurs du Capitole sous la direction de Gabriel Bourgoin. Ils ont fait un travail colossal de précision dans la phonétique, de précision dans la rythmique, dans les couleurs, également dans les dynamiques. Non, vraiment, c'est un spectacle magnifique. Si vous n'êtes pas allé...
Je sens qu'il n'y a aucune réserve.
Voilà.
Eh ben, il ne faut pas hésiter à le dire. Eh ben, pour le plaisir, nous allons réécouter la voix puissante du ténor norvégien Bror Magnus Stødenes, qui interprète Lenski au Capitole dans l'air le plus célèbre de ce personnage pendant l'acte 2, Kuda Kuda. Kuda Kuda, l'air de Lenski à l'acte 2 de Jane Onegin, chanté par Bror Magnus Stødenes, qui tient donc ce rôle dans la nouvelle production de l'opéra de Tchaïkovski au Capitole. Il reste trois représentations les 28 et 30 juin ainsi que le 2 juillet pour la découvrir. Serge Chosy, il y a un peu plus de 10 jours, nous avons assisté à la présentation de la prochaine saison Toulouse Guitare, dont le premier concert est programmé le 6 octobre à la Chapelle des Carmélites. Il y en a encore 4 autres jusqu'au 4 mai 2025 et vous teniez à nous les annoncer, d'autant plus qu'on va encore pouvoir y entendre de très grands musiciens.
Ah oui, absolument. Donc c'est la série des 5 concerts habituels, dont un qui est double en fait. Hein. Ça s'ouvrira donc le 6 octobre avec un récital de musique baroque par Gérard Habiton, le guitariste français, qui jouera du Scarlatti et du Bach. Et puis ce sera un guitariste brésilien, Yamandu Costa, qui jouera en fait de la musique du monde sur sa guitare à 7 cordes. Donc c'est un peu particulier. Et puis le 31 janvier, donc auront lieu dans la soirée 2 concerts par de jeunes musiciens. Erika Otani, qui est d'origine japonaise, mais née au Texas, et qui jouera du Castelnuovo Tedesco, du Hans Werner Henze tout de même, hein, et du Jean-Sébastien Bach. Et puis Virgil Barthes, alors que l'on connaît.
Oui, qu'on a déjà vu en première partie de concert. Déjà vu en première partie.
Alors je rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que tous ces récitals de grands musiciens sont précédés par une première partie offerte à un jeune musicien qui est en cours d'études, et ça c'est une initiative formidable de cette saison Toulouse Guitare. Donc Virgil Barthes jouera du Buxtehude, du Bogdanovich et du Scarlatti ce 31 janvier. Ensuite c'est un duo en cours du concert du dimanche 30 mars par 2 grands guitaristes, on les qualifie parfois de duo testostérone. Ce sont Zoran Dukic et Agnello Desiderio, qui joueront des choses tout à fait différentes, de Piazzolla, de Rodrigo, Assad, Albéniz et Granados. Et puis la saison s'achèvera avec un concert de guitare ancienne, alors, par Pavel Steidl, et avec une guitare d'époque, en quelque sorte, hein, avec des œuvres de Fernando Sor, de Merz, de Coste, de Legnani, Paganini aussi, et Carulli. Donc, voilà.
Sur sa guitare romantique.
Cette saison. Voilà. Et puis, cette présentation de la saison a été suivie par une sorte de concert cadeau offert par divers guitaristes, avec d'abord un jeune guitariste, Kélian Lucien, qui a joué une pièce de Domenico Scarlatti, puis Matteo Vidal également, qui a joué une passacaille de Joaquin Rodrigo, et puis un duo violoniste-guitariste avec la guitariste Dorine Guilbault et la violoniste Martina Curtis, qui ont joué des extraits d'une sonate bulgarica, on voit d'où ça vient, d'Atanas Urkuzunov, qui était déjà venu jouer la saison précédente au cours de la saison Toulouse Guitare. Donc. Et ce petit concert cadeau s'est achevé sur un trio avec Thibaut Garcia, évidemment, il fallait absolument qu'il vienne au devant de la scène, Thomas Xaba, qui a déjà aussi participé.
Qui a joué à Toulouse Guitare en 2023, effectivement, et qui vient d'intégrer le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse dans la classe guitare. Il sera un des enseignants
désormais. Et donc il sera un collègue aussi de Benoît Albert. Voilà. Qui était le troisième homme de ce dernier extrait, un extrait de la suite française numéro 1 de Bach. Et là, vraiment, on avait l'impression que Bach avait écrit cette suite française pour un trio de guitare, tellement c'était convaincant. Vraiment un très beau moment à la suite de la présentation de cette saison.
Et une belle saison 2024-2025 qui a la particularité, c'est la première fois, et d'ailleurs Thibaut Garcia l'a souligné, qu'il n'y aura que de la guitare. Parfois, exactement. Il y avait du luth, il y avait du théorbe, il y avait des duos guitare-violon. Long, ben là, il n'y aura que de la guitare.
Mais plusieurs types de guitare. Guitare à 7 cordes, guitare baroque.
Guitare romantique.
Et romantique.
Voilà, donc la saison est très belle. Ouais. Elle commence le 6 octobre. Alors, je ne peux pas vous faire écouter tous les musiciens invités lors de cette saison, bien sûr. On aura l'occasion de le faire en détail en septembre prochain, peut-être avec Thibaut Garcia, s'il est disponible. En attendant, il a bien fallu faire un choix. Je vous propose d'écouter le formidable duo formé par le Croate Zoran Dukic et l'Italien Agnello Desiderio dans un extrait de leur programme du 30 mars prochain. La pièce Mallorca d'Isaac Albéniz.
Thank you.
Mallorca d'Isaac Albéniz, interprété par le duo Desiderio Dukic, qui se produit donc à Saint-Pierre-des-Cuisines le 30 mars prochain. Toute la programmation 24-25 est consultable sur le site web de Toulouse Guitare. Vous pouvez également vous abonner et acheter vos places en ligne pour le concert de votre choix. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et l'on se retrouve avec Serge Chosy, Robert Pénavert et notre invité d'honneur Christopher Gibert pour la rubrique agenda de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie est entièrement consacré à la deuxième édition du Festival de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue qui a lieu cette année du 5 au 14 juillet. Notre invité Christopher Gibert en est à la fois le fondateur et le directeur artistique. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que vous êtes originaire de notre région de Rocamadour précisément, que vous êtes un ancien élève du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, que vous êtes organiste, compositeur et chef de chœur. Fondateur du chœur Dulci Jubilo, né à Toulouse mais basé aujourd'hui à Montauban, la ville où vous enseignez le chant au conservatoire départemental. Et comme si ce n'était pas assez pour vous, vous avez donc créé ce festival l'an dernier. Si je vous demande ce que sont la vocation, l'esprit et la ligne artistique de ce projet, qu'est-ce que vous me répondez ?
C'est de faire vivre cette abbaye cistercienne qui appartient au centre des monuments nationaux par un moment fort dans l'année où la musique vocale, le patrimoine et la création se rencontrent. Et c'est ce qui nous a motivés, donc avec l'équipe de l'abbaye et l'équipe d'Anima Nostra, à communément lancer ce festival l'an dernier, qui a été un franc succès avec 93% de remplissage, qui nous encourage donc pour cette deuxième édition à vous présenter cette programmation.
Il faut dire que le lieu est splendide, hein, vraiment magnifique, dans une région qui ne l'est pas moins. Et puis, il y a aussi ce fonds d'art contemporain, cette collection superbe dont on peut profiter tout en venant écouter vos concerts. On peut, avant, aller visiter la collection et aller au concert le soir, par exemple.
Oui, tout à fait. En fait, l'abbaye de Beaulieu, c'est un tout. C'est une abbaye qui a été sauvée par un couple de collectionneurs parisiens d'art contemporain de l'époque, couple Brache-Bonnefoy. Et donc, il y a 1300 œuvres d'art moderne conservées, que ce soit sculptures, essentiellement des tableaux, mais pas des moindres. Il y a des Dubuffet, des Hantaille, des Michaud, avec lesquels ces couples de collectionneurs entretenaient des rapports très privilégiés et qui venaient tous les étés à Beaulieu, d'ailleurs.
Les concerts ont lieu où ? Parce qu'il y a l'église de l'abbatiale, mais aussi il y a le cloître, il y a le cellier, le jardin. Hein.
Alors, globalement, cette année, on profite de l'abbatiale avec son acoustique cistercienne absolument sublime. Il y a en effet des concerts dans le cloître, donc dans cet espace claustral qui a une acoustique extérieure tout à fait intéressante, et également dans le jardin de roses. Le jardin de roses, c'est 8000 bulbes, 1000 pieds de roses qui sont actuellement en pleine floraison. Et d'ailleurs, donc il y a des effluves absolument fantastiques de roses dans toute l'abbaye, des roses anciennes en plus. Et donc, en effet, on peut venir à l'abbaye, visiter les collections, se poser un temps dans le salon de thé, flâner dans le jardin et passer vraiment une journée à l'abbaye pour finir par les concerts soit de 17h ou de 21h.
Ah oui, je conseille vraiment de profiter de toute la journée pour profiter de ce lieu dans son ensemble et de la collection d'art contemporain. Nous allons maintenant présenter la programmation de cette deuxième édition qui illustre très bien les axes forts du festival tels que vous venez de les détailler. Le concert d'ouverture est donné le vendredi 5 juillet à 21h par le Choir of Royal Holloway qui propose un programme intitulé Lighten My Eyes From Darkness to Light sous la direction de Rupert Goetz. Et là, on a affaire à l'un des meilleurs chœurs universitaires de Grande-Bretagne, tout simplement, Christophe.
Oui, c'est ça. Alors, les chœurs, bon, il y a des chœurs fantastiques qu'on connaît en Angleterre, que ce soit Votchesay, Ténébré, les King Singers, mais la plupart des ensembles anglais, après, ce sont des chœurs universitaires, ce qui est assez exceptionnel quand nous, on voit ça de notre œil de français. Et en effet, le Royal Holloway est un des meilleurs chœurs d'Angleterre, basé à Londres, qui nous fait donc le plaisir de venir faire l'ouverture du Festival de Beaulieu avec, en effet, un programme de musique anglaise des ténèbres à la lumière, globalement.
From Darkness to Light. Beaucoup de compositeurs, effectivement, britanniques dans leur programme, aussi du nord de l'Europe. Hein. Il y a des Lituaniens, des Lettons, des Suédois.
Oui, tout à fait. Rupert, c'est quelqu'un qui déjà a le goût de la création, c'est-à-dire qu'il crée, et il compose aussi d'ailleurs, beaucoup de musique, de compositeurs français, des pays baltes. Et donc, il y a en effet ce clin d'œil, sachant qu'en plus, cette année, l'abbaye de Beaulieu participe à l'année de la Lituanie, parce qu'une des grandes œuvres exposées à Beaulieu est une œuvre de Tada Ocern, donc un artiste que je vous invite à découvrir, qui donc a fait une grande construction dans l'abbatiale, donc qu'on pourra observer lors des concerts également. Donc c'est aussi un clin d'œil, on va dire, à tous ces pays.
Au programme de ce concert d'ouverture, il y a la pièce qui a inspiré le titre de ce programme, justement, Light on My Eyes, du compositeur suédois contemporain Bo Hansson, que l'on écoute maintenant dans une version du Choir of Royal Holloway. Light on My Eyes, pièce composée par Bo Hansson et interprétée par le Choir of Royal Holloway, qui donne donc le concert d'ouverture du Festival de l'Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 2024, vendredi 5 juillet à 21h. Le lendemain, samedi 6 juillet, il y a beaucoup de choses. La visite guidée insolite de Miss Grumpy à 17h, une conférence sur Hildegard von Bingen, conférence à 18h30 d'Anne Bertingo, et le concert de la formation Le Rapt Invisible à 21h. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur tout ça, Christopher? Parce qu'il y a beaucoup de choses là.
Oui, tout à fait. Le samedi, alors déjà, j'en profite pour évoquer le retour de Miss Grumpy, cette guide conférencière qui donc fait des visites décalées de l'abbaye. Et donc Miss Grumpy mène l'enquête dans Beaulieu, donc je vous invite vivement à la retrouver. Donc c'est les deux samedis, hein, donc le 6 juillet et le 13 juillet. Et en effet, donc le patrimoine, comme je l'évoquais, fait partie intégrante du festival. Donc si le samedi est consacré, on va dire, au répertoire médiéval à Hildegard von Bingen, il nous paraissait intéressant aussi de transmettre toute cette richesse du répertoire, et qui mieux que donc cette artiste interprète qui est Anne-Bertin Hugo, pour faire une conférence sur
Grande
Hildegard.
Grande spécialiste d'Hildegard von Bingen, voilà. Et du personnage et de ses écrits, et bien sûr de ses partitions nombreuses, puisque c'était une compositrice qui nous fait remonter quand même à 8 siècles en arrière. Hein.
C'est ça. Et donc le soir, ce qui est intéressant avec Le Rapt Invisible, c'est ce qui m'a intéressé dans ce programme-là, c'est que Romain Daillé, donc, qui est un chanteur, qui d'ailleurs parcourt par ailleurs les grandes scènes d'opéra, hein, également dans des rôles, notamment avec Hervé Niquet ou d'autres, il respecte, on va dire, le texte initial d'Hildegard. Vous ne serez pas dépaysé, vous reconnaîtrez, vous entendrez les grandes mélodies d'Hildegard, mais il y a une réécriture autour, et pour cela, il s'est entouré de Jean-Paul Dessy, donc, qui est un très grand violoncelliste belge, et il a adjoint quelques effets électroniques, mais voilà, très poétiques, on va dire, dans cette relecture d'Hildegard. Et donc, c'est une soirée en poésie, à partir de ce répertoire fondateur, quasiment.
Voilà, donc ça, ce sera à 21h, le programme Ad Lucem. Romain Daillé s'est inspiré, en fait, d'un manuscrit d'Hildegard von Bingen pour bâtir ce programme avec Jean-Paul Dessy au violoncelle. Dimanche 7 juillet à 17h, c'est votre formation, le Chœur Dulci Jubilo, qui se produit sous votre direction et accompagné par ce formidable musicien qui est Thomas Hospital. Vous présentez un programme que vous avez intitulé Impressionniste. J'imagine que l'on va y entendre du Ravel, du Debussy et quelques autres de leurs contemporains.
Oui, tout à fait. Évidemment, beaucoup de forêts. Nous adorons ça avec Thomas. C'est l'année forêt, ça tombe bien.
Oui.
Et également du Lili Boulanger, notamment une œuvre qui s'appelle Sous-bois. que oui, nous aurons le plaisir d'enregistrer également prochainement. Donc voilà, c'est un, j'irais, un parcours, presque une flânerie musicale de la musique pour chœur et piano du début du XXe siècle français que l'on vous propose dans ce programme-là, avec, comme vous l'avez dit, des grandes œuvres, de, soit les chansons de Debussy, les djinns de Fauré, Madrigal également de Fauré, des pas dans l'allée de Camille Saint-Saëns ou Sous-bois de Lily Boulanger, en, entre autres, et notamment des arrangements de mélodies de Fauré, mais arrangés pour chœur.
Pour chœur, et qui Rouget. A fait les arrangements
Denis Rouget, qui est un chef français, mais qui officie plutôt à Stuttgart en ce moment.
Ça devrait être très très beau. Alors la particularité, c'est que Thomas Hospital, que nous connaissons bien sûr à l'orgue, là il sera au piano.
Ah oui, en effet.
Là, il n'y a pas d'orgue là-bas.
Non, non, alors Beaulieu a beaucoup de vertus, mais il n'y a pas d'orgue. Et du coup, en effet, ça nous intéressait avec Thomas d'explorer ce répertoire pour piano, avec Thomas qui a également des compétences de pianiste, même si c'est un immense artiste.
Un musicien né. Nous allons écouter le chœur Dulci Jubilo, alors non pas dans un extrait de ce programme éco-impressionniste, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement pour l'instant, ça viendra sans doute, mais dans un enregistrement, un extrait de l'enregistrement de la messe romane composée par Thierry Esquech. C'est le Sanctus et Thomas Hospital, cette fois-ci, est à l'orgue. Le Sanctus, ce très beau Sanctus de la non moins très belle messe romane pour deux chœurs et orgue de Thierry Esquech, interprété par le chœur Dulci Jubilo sous la direction de Christopher Gibert, accompagné par Thomas Hospital. Vous allez donc retrouver les mêmes, sauf que Thomas Hospital sera au piano, dimanche 7 juillet à 17h à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue dans le programme Éco-impressionniste. Et le même jour, le public a rendez-vous, au même endroit bien sûr, avec le groupe vocal Climax, qui lui propose un répertoire de close harmonie. Qu'est-ce que c'est, Christopher, le close harmonie?
C'est,
ou la close harmonie d'ailleurs plutôt.
Oui, peu importe. C'est des harmonies assez resserrées en fait. Donc c'est un quatuor vocal qu'on peut associer au jazz, au barbershop aussi également.
Barbershop.
Et donc il reprendra des standards de jazz, mais aussi des classiques de Disney pour les amateurs. Et donc c'est un concert qui sera dans le cloître de l'abbaye, donc en plein air, en espérant que les soirées estivales soient au rendez-vous pour qu'on profite de ce ciel étoilé de Beaulieu pour écouter Climax.
Voilà, que j'ai eu l'occasion de découvrir justement dans des concerts en plein air, les concerts sous les étoiles lors du festival de Rocamadour. C'est formidable ce qu'ils font. Alors ce programme est intitulé Over the Rainbow, ce qui nous donne une idée de ce qu'on va entendre.
Oui, au moins ça. En effet, vous entendrez Over the Rainbow des standards de jazz et notamment des extraits du Roi Lion, par exemple aussi. Mais je ne sais pas ce que
ils
vous
ont
avez...
le livre de la jungle aussi.
Voilà, le livre de la jungle, etc. Donc c'est extrêmement joyeux, jovial. Il y a de quoi passer une bonne soirée en famille aussi.
Eh bien, on va en avoir un aperçu de ce programme avec la chanson célèbre qui lui donne son nom. Le groupe Climax interprète sa version d'Over the Rainbow. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel, le groupe Climax chantait Over the Rainbow dans une version arrangée par Cécile Thébault. C'est la fille du groupe. Normalement, il n'y a que des garçons dans les groupes de Close Harmony, je crois. Et donc, Cécile Thébault est la fille du groupe. Elle a arrangé cette belle version d'Over the Rainbow pour les avoir entendus tous les quatre, je le répète, lors des concerts sous les étoiles au Festival de Rocamadour. Je peux vous dire que c'est une occasion à ne pas manquer. Allez voir ce concert dimanche 7 juillet à 21h. La proposition suivante, c'est le mercredi 10 juillet à 15h. C'est un spectacle jeune public proposé par Sophie Belloir et Yann Barraud. Il s'agit d'un conte musical qui a pour titre non pas « Qui veut gagner des millions » mais « Qui veut gagner des Queen Yaman ». Est-ce qu'il ne serait pas un peu breton ces deux-là?
Oui, quelque peu. Oui. Quelque peu. Je trouvais le titre amusant et il ne fallait pas le changer pour notre terroir. Mais en effet, c'est...
C'est très bon, Queen Yaman.
Mais c'est tout à fait très bon.
Et c'est léger en plus.
Une fois par an,
oui. C'est léger.
Et en effet, donc, ça nous tenait à cœur cette année d'avoir un spectacle vraiment de jeune public, même s'il y a des soirées comme Climax qui ont... Tout à fait, toutes les soirées dans l'absolu sont à propos pour le jeune public. Mais là, c'est... un moment qui est pour eux, donc le mercredi après-midi. Alors, est-ce qu'il y aura une dégustation de Queen Yaman? Ça, le suspense est à son comble, il faudra venir pour voir. Et c'est donc Sophie Belloir et Yann Barraud font une sorte de voyage polyglottique à travers le monde, avec plein de chansons très diverses, et donc ils ont tissé une histoire autour de ce répertoire, donc je vous en dis pas plus, il faut voir le spectacle.
Et c'est qui veut gagner des Queen Yaman, donc il faut les gagner si on veut en manger,
c'est ça,
attention.
C'est ça, donc...
Voilà, mercredi 10 juillet à 15h. Vendredi 2 juillet à 21h, on vous retrouve avec le chœur Dulci Jubilo et le chanteur Pascal Caumont dans un programme auquel vous avez donné le titre, je suis sûr, je vais mal le prononcer, Terramaire.
C'est pas mal, ah bon. Terramaire.
Bon, bah, c'était pas bon du tout. Bon. Terre-mère, ode à la femme du Moyen-Âge à nos jours. Qu'est-ce qu'on va y entendre?
Tout à fait. Alors, Dulci Jubilo, comme vous l'avez dit, est en résidence hein, à l'abbaye de Beaulieu également. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons deux créations cette année au festival, donc les éco-impressionnistes le dimanche 7 et ce 12 juillet, qui est la grande création de cette année, donc qui est coproduite avec l'abbaye de Sylvanès, centre culturel de rencontre. Et donc, c'est donc la première des créations de ce programme-là, Terramaere. Et donc, c'est l'idée avec Pascal, quand on s'est rencontrés, de mêler les polyphonies pyrénées, plus largement occitane et catalane, avec un répertoire à la fois médiéval de ces terres, y compris si on s'éloigne un peu avec le codex de Las Huelgas ou le début du Livermeil de Montserrat, on n'est pas très très loin non plus, et de mettre un regard contemporain, parce que je vous rappelle que la création et notre fer de lance aussi, à Beaulieu. Et donc nous avons fait 3 commandes à des compositrices et compositeurs de notre temps sur des textes occitans, en écho avec cette thématique de la femme au Moyen-Âge et particulièrement en Occitanie. Donc il y a la compositrice Pauline Langlois de Svart, donc qui est accessoirement aussi une des itinérantes.
Et la sœur de Théotime. Voilà. Belle famille de musiciens, les Langlois de Svart.
Très, très grande chanteuse et qui nous fait l'amitié donc, de nous avoir recomposé une pièce pour nous qui s'appelle Terra Mater. Donc vous voyez, on est quand même assez dans la thématique. Et donc elle a pris notamment un texte d'Hildegard von Bingen qu'elle a retravaillé dans ce sens-là. Nous avons fait une commande à Emmanuelle d'Acosta, donc compositrice d'origine basque, qui nous fait un amalour du coup, donc terre-mère en basque. Oui, donc on est de l'autre côté des Pyrénées. Là, vous voyez, entre ces deux compositrices, déjà, on a Pauline qui fait une musique modale, post-modale, quelque chose qui est vraiment dans la filiation des compositeurs de la vocalité, on va dire, et Emmanuel, tout en restant vocal, est dans une musique beaucoup plus spectrale. Donc en fait, ce qui m'a intéressé dans ce point-là, c'est de aussi mêler les contemporains, je dirais, d'avoir vraiment tout un panel de musique contemporaine qu'on découvre autour de cette thématique.
Je pense que ça va beaucoup intéresser les gens de notre région qui restent attachés à ce patrimoine vocal occitan, pyrénéen, catalan. J'ai un petit extrait du programme Terra Maiere à vous faire écouter, enregistré par le chœur Dulci Jubilo. C'est une polyphonie pyrénéenne qui a pour titre Nostra Dama Deu Cap Deu Pont. Notre-Dame du bout du pont, je le dis en français comme ça personne ne va se moquer de moi. Polyphonie pyrénéenne chantée par le chœur Dulci Jubilo, extrait du programme Terra Maiere, donné avec Pascal Caumont le 12 juillet à 21h. Samedi 13 juillet, il y a de nouveau la visite guide insolite de Miss Grumpy à 17h, puis à 21h, le concert de l'ensemble Irini à un quatuor vocal féminin spécialisé dans le répertoire de la musique ancienne sacrée d'Orient et d'Occident. Le programme est intitulé Maria Nostra et c'est une formation qui a souvent été distinguée par la critique. Christopher, que vous avez invité là.
Oui, je suis vraiment très heureux de les recevoir cette année. Donc Lila Jossi, qui est une personnalité musicale, tant musicienne qu'humaine, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup à nous offrir dans ces temps sombres. Et Irini, qui est un ensemble d'une immense qualité, qui, par la pluralité des répertoires, nous emporte en fait dans les thématiques qu'il aborde. Donc je trouve que Lila a ce talent de vraiment nous amener dans ces terrains, parfois inconnus, parfois méconnus, et nous les faire découvrir et apprécier.
Maria Nostra, c'est un programme de chant du culte marial autour du bassin méditerranéen, c'est ça,
c'est très varié, donc vous entendrez des chants de la Renaissance français, tout comme des rites syriaques, tout comme des chants chypriotes, etc. Donc c'est extrêmement varié, et c'est ça qui est intéressant et qui fait la richesse de ce répertoire.
En tout cas, c'est très intriguant. Alors, dans ce programme tiré du CD Maria Nostra, que l'ensemble Irini a fait paraître en 2015, il y a par exemple le chant Panagiatou Kiku, je le prononce encore une fois sans doute très mal, une litanie d'appel de la pluie qui nous vient de Chypre.